Condorcet, vie de Monsieur Turgot, fichier 7. La mémoire de nos sensations est la faculté que nous avons de réfléchir sur ces sensations passées et de les combiner, sont le seul principe de nos connaissances. La supposition qu'il existe des lois constantes auxquelles tous les phénomènes observés sont assujettis de manière à reparaître dans tous les temps, dans toutes les circonstances, telles qu'ils sont déterminés par ces lois, est le seul fondement de la certitude de ces connaissances. Nous avons la conscience d'avoir observé cette constance, et un sentiment involontaire nous force de croire qu'elle continuera de subsister. La probabilité qui en résulte, quelque grande qu'elle soit, n'est pas une certitude. Aucune relation nécessaire ne lie pour nous le passé à l'avenir, ni la constance de ce que j'ai vu à celle de ce que j'aurais continué d'observer si j'étais resté dans des circonstances semblables. Mais l'impression qui me porte à regarder comme existant, comme réel, ce qui m'a présenté ce caractère de constance est irrésistible. Dès l'instant où je ne dois l'idée d'existence et l'opinion qu'une chose quelconque existe qu'à la constance avec laquelle j'ai vu certaines combinaisons de sensations reparaître et suivre des lois régulières, si, dans l'ensemble de la nature, je parviens à saisir un ordre général dont rien ne s'écarte. Si j'aperçois dans cet ordre une intention, un plan qui suppose une intelligence, une puissance active, dès lors, j'ai l'idée de l'existence d'un être suprême, principe de cet univers, et la même force m'oblige à croire à cette existence. Or, M. Turgot avait cru apercevoir dans tout ce que nous connaissons de l'univers les traces indubitables, non seulement d'un ordre, mais d'une intention bienfaisante et conservatrice. Il ne voyait dans le mal physique, dans le mal moral, qu'une conséquence nécessaire de l'existence d'êtres sensibles, capables de raison et bornés. La perfectibilité dont sont douées quelques espèces, et en particulier l'espèce humaine, est à ces mots un remède lent, mais infaillible. Il croyait que, puisque l'ensemble des phénomènes annonçait des vues bienfaisantes, avec une puissance au-dessus des forces de notre intelligence, nous devions croire que le même ordre subsiste dans les parties de l'univers cachées à nos regards, sans être arrêté par l'impossibilité d'expliquer pour quelle cause il ne nous présente pas un ordre plus parfait suivant nos idées, nécessairement trop borné pour en saisir tout l'ensemble. Il regardait cette opinion comme démontrée, c'est-à-dire comme fondée sur une probabilité dont la très grande supériorité à l'égard de la probabilité contraire était démontrée. Car, si on en accepte la proposition ou la combinaison de propositions de l'évidence desquelles nous avons actuellement une conscience intime, il ne peut dans aucun genre, existait pour nous de démonstration que dans ce premier sens, puisque l'existence des corps n'est pour nous que la permanence d'êtres dont les propriétés répondent à un certain ordre de nos sensations, il en résulte qu'elle n'a rien de plus certain que celle d'autres êtres qui se manifestent également par leurs effets sur nous. Et puisque nos observations sur nos propres facultés confirmée par celle que nous faisons sur les êtres pensants qui animent aussi des corps, ne nous montre aucune analogie entre l'être qui sent ou qui pense et l'être qui nous offre le phénomène de l'étendue ou de l'impénétrabilité, il n'y a aucune raison de croire ces êtres de la même nature. Ainsi, la spiritualité de l'âme n'est pas une opinion qui ait besoin de preuves, mais le résultat simple et naturel d'une analyse exacte de nos idées et de nos facultés. Monsieur Turgot croyait qu'on s'était trompé en imaginant qu'en général, l'esprit n'acquiert des idées générales ou abstraites que par la comparaison d'idées plus particulières. Au contraire, nos premières idées sont très générales, puisque, ne voyant d'abord qu'un petit nombre de qualités, notre idée renferme tous les êtres auxquels ces qualités sont communes. En nous éclairant, en examinant davantage, nos idées deviennent plus particulières, sans jamais atteindre le dernier terme. Et ce qui a pu tromper les métaphysiciens, c'est qu'alors, précisément, nous apprenons que ces idées sont plus générales que nous ne l'avions d'abord supposé. Monsieur Turgot ne regardait point les définitions de termes, celles qui fixent le sens des mots comme rigoureusement arbitraires. En effet, les mots sont destinés à exprimer des idées complexes. C'est à celles de ces idées qu'il peut être utile de combiner et d'examiner, à celles qui, par une suite nécessaire de l'ordre des choses, existent dans l'entendement d'un grand nombre d'hommes, qu'on doit attacher des signes. Et la définition doit servir non seulement à bien déterminer les idées complexes, mais aussi à bien classer les idées simples qui les composent et qui doivent les composer. Tout être sensible et capable de raisonner doit acquérir des idées morales. Ces idées doivent être les mêmes. Elles ne sont donc pas arbitraires, et les propositions qu'on en peut former, indépendamment de la vérité de définition, ont une vérité réelle. Les motifs qui nous font préférer, soit relativement à notre satisfaction, soit relativement à notre existence sociale, ce qui est juste à ce qui est injuste, naissent également de la nature de tous les êtres sensibles et capable de réflexion. C'est donc de la nature même de notre être que dérive et la connaissance des vérités morales et les motifs d'y conformer sa conduite, aussi bien que les motifs d'intérêt qui y font manquer. La vérité de ces principes de morale est donc à la fois réelle et indépendante de toute opinion spéculative. Et il existe des motifs d'assujettir ces actions à ces principes suffisants dans presque toutes les circonstances pour l'homme né dans un pays où la civilisation a fait des progrès et où les lois injustes ne conduisent pas à l'immoralité et au crime. Parmi les sentiments moraux qui naissent nécessairement dans le cœur de l'homme, le respect pour la vérité est un des plus utiles et un de ceux que la nature inspire le plus fortement, mais qui s'altère le plus dans la société. Monsieur Turgot regardait ce respect pour le vrai comme un des principaux devoirs de la morale. Mais comme il n'exagérait rien, il convenait, avec les moralistes éclairés, que le mensonge cesse d'être coupable dès que la vérité ferait, soit aux autres, soit à nous-mêmes, non du mal, mais un véritable tort, c'est-à-dire un mal injuste. Il faut, de plus, que le silence ou le refus de répondre soit lui-même une réponse claire ou expose à une injustice réelle. Cependant, il pensait que rarement celui qui dit une chose contraire à la vérité est absolument exempt de blâme. S'il ne doit pas cette vérité, son tort n'est plus de l'avoir altérée, mais de s'être placé plus ou moins volontairement dans l'obligation d'y manquer. C'est ainsi qu'un homme qui a promis de faire une injustice est coupable en ne tenant point sa parole, non de l'avoir violée, mais de l'avoir donnée. C'est ainsi encore qu'un homme qui en blesse un autre, même dans le cas de la défense naturelle, n'est pas coupable pour s'être défendu, mais pour s'être exposé à l'extrémité qui a rendu cette défense nécessaire. Les institutions sociales, en accablant les hommes sous des lois injustes, en les forçant de ménager à l'extérieur des opinions qu'ils méprisent au fond du cœur et qu'ils bravent dans leur conduite, ont détruit ce respect de la vérité, l'un des premiers liens de la société, l'une des premières sources du bonheur que les hommes peuvent devoir à leur union avec leurs semblables. Monsieur Turgot pensait qu'on peut parvenir à fortifier dans les hommes leurs sentiments moraux, à les rendre plus délicats et plus justes, soit par l'exercice de ces sentiments, soit en apprenant à les soumettre à l'analyse d'une raison saine et éclairée. C'est par ce motif qu'il regardait les romans comme des livres de morale, et même, disait-il, comme les seuls où il eût vu de la morale. D'ailleurs, c'est là surtout que l'on voit le mieux l'influence de nos actions sur le bonheur et sur la conduite de ceux qui nous environnent, partie de la morale la plus importante et la plus négligée. Enfin, on chercherait vainement dans les autres livres des recherches faites avec une sorte de scrupule sur les moyens de réparer les fautes qu'on a pu commettre. Autre partie de la morale, non moins importante, puisque les crimes vraiment irréparables sont très rares et encore plus négligés, parce que, presque dans tous les pays, l'avarice et l'ambition des prêtres ont imaginé de suppléer à ce devoir par de vaines et ridicules expiations. L'âme périt-elle avec le corps? Monsieur Turgot ne le croyait pas. L'espèce de dépendance où le principe pensant et sentant paraît être du corps qui lui est uni indique, sans doute, qu'à la destruction du corps, l'âme doit changer d'état. Mais rien dans cet événement ne paraît indiquer la destruction d'un être simple, dont toutes les opérations, il est vrai, ont été longtemps liées avec les phénomènes de l'organisation, mais n'offre aucune analogie avec ces mêmes phénomènes. Il paraît prouvé par l'observation qu'aucun corps ne se détruit. Les diverses combinaisons de leurs éléments les font changer de forme et même disparaître à nos sens. Mais nous n'en croyons pas moins qu'ils n'ont pas cessé d'exister. Par quel singulier privilège l'être pensant serait-il seul assujetti à la destruction? Mais que devient-il? La sagesse qui paraît régner dans l'économie du monde doit nous faire croire que cet être susceptible d'acquérir tant d'idées, de réfléchir sur ses sentiments, en un mot, de se perfectionner, peut ne pas perdre le fruit de ce travail exercé sur lui, par lui-même ou par des forces étrangères, qu'il peut éprouver, après la mort, des modifications dont celle qu'il a reçue pendant la vie soit la cause, et que c'est peut-être dans ce nouvel ordre dont nous ne pouvons nous former une idée qu'existe la réponse aux plus grandes difficultés qu'on puisse faire contre la sagesse qui règne dans l'arrangement de l'univers. Cet ordre, en effet, peut offrir et un dédommagement des douleurs souffertes et des récompenses à la vertu. Mais M. Turgot n'allait pas plus loin. Autant il trouvait ridicule de regarder le directeur de tant de monde comme un monarque occupé à distribuer des cordons ou à condamner à des tortures, ayant une cour, une bastille et des bourreaux, autant il lui paraissait insensé de vouloir se mettre à sa place et créer un nouvel univers pour se consoler de n'avoir pu connaître qu'une bien faible partie de celui qui existe. Ces vues d'une métaphysique générale dont nous ne pouvons offrir qu'une petite partie, occupèrent longtemps M. Turgot. Il n'aimait pas en parler, même à ses amis les plus chers. Persuadé qu'il pouvait répandre une véritable lumière sur ces questions, aliments éternels de disputes chez presque tous les peuples, se flattant de l'avoir entrevu, il croyait qu'un ouvrage méthodique et approfondi était le seul moyen de dissiper une obscurité qui tient uniquement à la difficulté de soumettre à une analyse exacte des idées fines et compliquées. Et il était persuadé qu'il ne pouvait rien détacher de cet ensemble sans affaiblir, sans presque anéantir, la force des preuves qui en résultaient. Aussi, de tous les hommes qui ont eu sur ces mêmes questions une opinion arrêtée, aucun n'a eu peut-être une conviction plus forte, plus inébranlable, et seul il a été vraiment tolérant. Il tolérait également et le pyrrhonisme et la croyance la plus ferme des opinions opposées aux siennes, sans même que cette opposition altérât en rien ni son estime pour les talents, ni sa confiance pour les vertus de ceux qui les avaient embrassés. Les hommes n'ont pu former des associations régulières que pour la conservation de leurs droits naturels. Ces droits sont la sûreté de leur personne et de leur famille, la liberté et surtout la propriété. L'homme a, sur les fruits du champ qu'il a défriché, sur le logement qu'il a construit, sur les meubles ou les instruments qu'il a fabriqués, sur les provisions qu'il a rassemblées, un droit qui est le prix de son travail. Et l'espérance qu'il a nourrie de conserver ce fruit de ses peines, la douleur de les perdre, plus grande qu'une simple privation, donne à ce droit une sanction naturelle qui oblige tout autre homme à le respecter. Dans une société naissante et déjà au-dessus de l'état de sauvage, chaque homme sait assez veiller sur sa sûreté et il ne la met sous la protection des lois qu'avec une sorte de répugnance. Il a peu à craindre pour sa liberté. L'esclavage suppose une société déjà formée et même assez compliquée. Enfin, les autres outrages à la liberté sont une suite de l'état social. Ainsi, de tous les droits de l'homme, la propriété est celui pour lequel il a le plus besoin de s'associer avec ses semblables, qui prennent avec lui l'engagement réciproque de la défendre et en rendent, par cette association, la conservation assurée et moins périlleuse. On a donc pu, sans injustice, regarder les propriétaires comme formant essentiellement la société. Et si on ajoute que chez tous les peuples cultivateurs, les limites du territoire sont celles où s'arrêtent les droits de la société, que les propriétaires de fonds sont les seuls qui soient attachés à ce territoire par des liens qu'ils ne peuvent rompre sans renoncer à leur titre, qu'enfin, eux seuls portent réellement le fardeau des dépenses publiques, il sera difficile de ne pas les regarder comme étant les seuls membres essentiels de cette même société. La propriété n'est autre chose que la libre disposition de ce qu'on possède légitimement. Dans l'état naturel, tout ce dont on jouit sans l'avoir enlevé à un autre forme cette propriété. Dans l'état social, elle devient ce qu'on a reçu de sa famille, ce qu'on a pu acquérir par son travail, ce qu'on a obtenu par une convention. Les lois règlent la manière d'exercer ce droit, mais ce n'est pas des lois qu'on le tient. La libre disposition de la propriété renferme le pouvoir de vendre, de donner, d'échanger ce qui est à soi. Et si cette propriété consiste dans les denrées qui se reproduisent, de régler cette reproduction à son gré et de jouir, comme on le voudra, du produit. La seule borne à cette libre disposition est de ne rien faire qui nuise à la sûreté, à la liberté, à la propriété et en général au droit d'un autre. La liberté naturelle consiste dans le droit de faire tout ce qui ne nuit pas au droit d'autrui. Il ne faut pas confondre cette liberté avec la liberté civile, qui consiste à n'être forcé d'obéir qu'à des lois, car les lois peuvent violer la liberté naturelle, ni avec ce qu'on appelle la liberté politique, qui consiste à n'obéir qu'aux lois auxquelles on a donné sa sanction, soit par soi-même, soit par ses représentants. La liberté civile n'est qu'une jouissance confirmée par l'autorité des lois, d'une partie et souvent d'une très petite partie de la liberté naturelle, même dans les pays où l'on se vante le plus d'être libre. La liberté politique n'est véritablement que l'exercice du droit de souveraineté, droit qui n'a dû son existence qu'à la société et qu'il ne faut pas confondre avec ceux pour le maintien desquels elle a été établie. Comme le droit de propriété, quoique antérieur à la société, se trouve modifié dans l'ordre social, de même, la liberté naturelle y devient sujette à certaines limitations qui naissent de la même cause, la nécessité où est l'homme en société d'assujettir à une forme régulière et commune pour tous une partie de ses actions. C'est la nature elle-même qui marque encore quelles doivent être ses actions. Et la loi ne pourrait, sans attaquer la liberté, en astreindre d'autres à cette uniformité. Ces limitations peuvent être de deux espèces. Dans l'une, elles restreignent la liberté, même sur des objets où l'on pourrait avoir un motif réel et juste de ne pas se conformer à la loi. Dans l'autre, elles ne les restreignent que sur des objets indifférents. Il semble n'ôter que la liberté de suivre ses caprices. Plus une législation approchera de l'espèce de perfection compatible avec la nature humaine, moins on y observera de ses limitations à l'exercice motivé de la liberté. Peut-être disparaîtrait-elle même absolument des lois qui obligent à la fois l'universalité des citoyens. Et les limitations qui semblent n'assujettir que le caprice y deviendront aussi de plus en plus rares. On peut déjà tirer de ces vérités deux conséquences importantes. D'abord, puisque l'objet de la société est partout le même, que partout elle a été instituée pour le maintien des droits qui appartiennent également à tous les hommes. Pourquoi ? Les lois destinées à remplir un même objet, à exercer leur autorité sur des êtres d'une même espèce, seraient-elles différentes? Toutes ont le même but, et le système de loi qui le remplira le mieux sera le meilleur pour toutes les nations. S'il peut y avoir des différences, ce n'est point dans les lois qu'il convient de donner à différents peuples, mais dans les moyens de ramener à ces mêmes lois ceux que des législations différentes entre elles, mais toutes vicieuses, en ont écartées. En second lieu, les lois ne peuvent être que des règles générales auxquelles tous les membres d'une société doivent se conformer pour se procurer une jouissance plus certaine et plus entière de leurs droits. Elles ne peuvent donc être légitimes qu'en remplissant ces deux conditions, l'une d'émaner d'un pouvoir légitimement institué, l'autre de ne violer en aucun point les droits naturels qu'elles doivent conserver. cette erreur que toute loi, faite par un pouvoir légitime et juste, n'a pu naître que dans les républiques, dans celles même qui avaient l'apparence de la démocratie. Partout ailleurs, elle eût paru l'expression de la flatterie la plus abjecte. Mais cette opinion, quoique adoptée par les anciennes républiques et renouvelée de nos jours par les plus fougueux partisans de la liberté, n'en est pas moins une erreur. Quoi ? Lorsque le peuple d'Athènes eut décerné par une loi la peine de mort contre ceux qui briseraient les statues de Mercure, une telle loi pouvait être juste ? Quoi ? La loi en vertu de laquelle il bannissait de la ville tout homme dont les talents lui faisaient ombrage pouvait être une loi légitime ? D'autres violations des droits de la nature peuvent être moins odieuses ou moins ridicules, mais la raison qui doit les faire condamner reste dans toute sa force. Cette seconde condition est même bien plus essentielle que la première. En effet, si l'on suppose des hommes soumis à des lois dont aucune ne viole aucun de leurs droits, et que toutes, au contraire, concourent à leur en assurer la jouissance, il importera bien peu à leur bonheur que ces lois aient reçu leur sanction sous une forme publique ou seulement par le consentement tacite qu'il leur aurait donné. On a confondu souvent ces deux conditions, moins encore parce qu'on a vu souvent de mauvaises lois naître dans les constitutions absolues, car il en a existé d'aussi mauvaises dans d'autres gouvernements, mais parce que les lois injustes émanées d'un seul homme paraissent-elles aux yeux de la multitude, tandis que les injustices du peuple ne sont des injustices qu'aux yeux des sages. D'ailleurs, dans les unes, c'est à quelques individus que tout un peuple paraît sacrifié. Dans les autres, ce sont quelques hommes qu'on a l'air d'immoler à l'intérêt ou au salut général. Si on suit les sociétés dans leur progrès, si l'on examine suivant quel ordre et par quels moyens les richesses s'y forment et s'y distribuent, on y verra l'intérêt particulier de chaque individu le porter à s'occuper d'améliorer sa fortune. S'il est agriculteur, ses épargnes employées à des entreprises de culture serviront à augmenter le produit de ses terres, à multiplier par conséquent la masse des denrées, à en procurer l'abondance, à en diminuer le prix. Est-ce par son travail, par son industrie qu'il peut acquérir des richesses ? Il cherchera les moyens de pouvoir dans un même temps ou produire plus d'ouvrages ou faire des ouvrages plus parfaits et d'une plus grande valeur et par conséquent à augmenter la somme totale de ses valeurs et à faire baisser le prix particulier de chaque objet. Le commerçant cherchera par des spéculations plus adroites à se procurer la facilité de vendre à plus bas prix les mêmes denrées ou d'en fournir de meilleures au même prix. Il tâchera de prévoir les besoins des habitants des pays où s'étend son commerce et de fournir à ses besoins pour un prix qui lui fasse obtenir la préférence. Les capitalistes, pour tirer de leurs fonds un plus grand revenu, les emploieront dans les entreprises de commerce et d'industrie et leur donneront une activité utile au bien général. Mais plus ils assembleront de capitaux, plus la concurrence et la nécessité de ne pas laisser leurs fonds oisifs doivent les obliger à baisser cet intérêt. Ainsi, dans toutes les classes de la société, l'intérêt particulier de chacun tend naturellement à se confondre avec l'intérêt commun. Et, tandis que la justice rigoureuse oblige de laisser jouir chaque individu de l'exercice le plus libre de sa propriété, le bien général de tous est d'accord avec ce principe de justice. L'agriculture doit être libre parce que le cultivateur cherche nécessairement à produire le plus de denrées et à produire celles qui, pour une peine et des avances égales, donnent le plus grand produit. Toute gêne est donc inutile si elle ne dérange point les spéculations des agriculteurs, et elle nuit à la reproduction si elle les contrarie. L'industrie doit être libre, puisque l'intérêt de tous ceux qui s'y livrent est de mériter la préférence par la bonté du travail, ou d'en augmenter la masse. Tout privilège en ce genre est à la fois une injustice envers ceux qui ne le partagent pas, et une mesure contraire à l'intérêt général, puisqu'elle diminue l'activité de l'industrie. Le commerce doit être libre, parce que l'intérêt du commerçant est de vendre beaucoup et d'avoir à vendre tout ce dont les acheteurs ont besoin, et que la concurrence née de la liberté est le seul moyen d'enlever aux négociants l'intérêt et le désir de hausser les prix. Toute gêne est donc nuisible parce qu'elle diminue à la fois l'activité et la concurrence. L'intérêt de l'argent doit être libre parce qu'alors il se règle toujours sur le profit qu'il rapporte à l'emprunteur et sur la probabilité de retirer ses fonds. Si on le fixe par une loi, en soumettant à des pertes ou à des peines ceux qui s'en écartent, on nuit à l'activité, au commerce, et l'on augmente le taux de cet intérêt qu'on voulait diminuer. Quel droit peut donc avoir la société sur ces objets? Instituée pour conserver à l'homme ses droits naturels, obligée de veiller au bien de tous, la justice, l'intérêt public, lui prescrivent également de borner la législation à protéger l'exercice le plus libre de la propriété de chacun, à n'établir aucune gêne, à détruire toutes celles qui subsistent, à empêcher que la fraude ou la violence n'en impose de contraire aux lois. Pour procurer aux hommes l'exercice paisible et libre de leur propriété, il faut nécessairement former un fonds destiné aux dépenses nécessaires pour la défense commune et pour l'exécution des lois. D'ailleurs, l'état de société exige nécessairement des travaux publics, utiles à tous les citoyens ou aux habitants d'une ville, d'un village, d'un canton. Ils ne doivent être faits qu'aux dépens de tous ceux qui en profitent. Mais ces mêmes travaux ne peuvent être bien exécutés, ou même le seraient souvent d'une manière nuisible au droit ou à l'intérêt d'autrui, si on leur en abandonnait arbitrairement la direction. Enfin, il peut être utile d'encourager par des récompenses des services rendus à tous. De là naît la nécessité d'une subvention. Quel sera donc à cet égard le droit de la société sur les individus? On voit d'abord que la valeur de cette subvention ne doit pas aller au-delà de ce qui est rigoureusement nécessaire au maintien et à la prospérité du peuple, ou plutôt qu'elle doit s'arrêter précisément au point où il est en général plus utile à chaque individu de payer cette subvention que de ne pas la payer. À cette raison de justice, il s'en joint une autre d'utilité publique. En effet, cette proportion excédente d'impôts, distribuée à des consommateurs, est absolument perdue pour la culture. Et pour l'industrie, tandis qu'au moins une partie de cet excédent y aurait été employée si l'impôt ne l'eût pas enlevé aux citoyens. On doit observer ensuite que si la société a le droit de lever une subvention et d'exiger de chacun une partie de sa propriété, celui de gêner les individus dans la disposition de ce qui leur reste ou dans l'usage de leur liberté n'en est pas une conséquence. on voit enfin que cette subvention, pour être juste, doit être distribuée proportionnellement aux avantages que l'on retire de la société. Elle doit donc être imposée sur les propriétés, l'être directement et l'être proportionnellement au produit net. Toute autre forme d'imposition entraînera des atteintes à la liberté des citoyens et à l'exercice du droit de propriété. Elle serait donc essentiellement injuste. Les règles qui déterminent la distribution des propriétés que la mort fait vaquer. Les lois relatives aux conventions qui forment les échanges, les transports ou de la propriété ou de la jouissance pour un temps. Les règlements nécessaires pour empêcher que dans l'exercice de la propriété, le droit d'un autre ne soit lésé, tels sont les objets du droit civil. Dans ces lois, rien ne doit donc être arbitraire. Tout doit tendre, non à la plus grande utilité de la société, principe vague et source féconde de mauvaises lois, mais au maintien de la jouissance des droits naturels. Dans l'état de nature, la propriété du père, fruit de son industrie et de son travail, doit être également partagée entre ses enfants. Et si un des enfants meurt sans postérité, le père seul a des droits sur cet héritage. Ce principe suffit pour régler dans l'état social l'ordre des successions. Il s'agira seulement de reporter chaque bien suivant que la transmission héréditaire en est connue ou qu'elle ne l'est pas, à la tige ou aux tiges les plus prochaines qui subsistent et dont il reste des descendants, et de le distribuer ensuite suivant l'ordre naturel. Mais quels sont les enfants d'un homme, d'une femme? Si dans la réponse à cette question, on veut bien consulter la seule raison et n'écouter de préjugés d'aucune espèce. Si ensuite, on veut bien convenir que la femme égale en tout l'homme doit jouir absolument des mêmes droits, si on se rappelle dans quelles limites étroites le droit de la société sur la liberté des individus doit être resserré, on trouvera facilement quelle législation sur les mariages et sur les droits des enfants nés hors du mariage sera la plus conforme à la justice et concourra le mieux à remplir l'objet primitif de toute association politique. On verra que rien dans cette partie comme dans une autre ne doit être arbitraire, ne doit dépendre de la constitution, du climat, des mœurs ou des opinions du peuple. Le droit de propriété n'est, pour chaque individu, que celui d'user librement de ce qui lui appartient. On ne peut regarder le droit de tester, c'est-à-dire d'avoir une volonté toujours révocable, de disposer de ce qu'on possède au moment où on cesse de le posséder, comme une suite de la propriété. Ainsi, point de testament, point même de ces dispositions qui, en cédant une propriété, règlent, pour un temps indéfini, la forme, l'emploi qu'on en doit faire. Toute fondation, toute propriété appartiennent à un corps, à une communauté, doit être à la disposition de l'État quant à la manière d'en jouir et de l'employer. C'est de la nature que naît le droit de propriété. Toutes les propriétés fictives ne doivent être que des représentations des propriétés réelles. Et la société ne doit pas en créer arbitrairement comme elle le fait en donnant des privilèges dans la librairie ou dans les arts, des droits de chasse, d'usine ou de pêche sur les rivières. Suivant le droit naturel, la chasse appartient à chaque propriétaire sur son terrain, la pêche aux propriétaires riverains et à tous ceux qui ont le droit de parcourir la rivière. Les usines à ces mêmes propriétaires pris collectivement, parce que chacun d'eux n'en peut jouir séparément, sans nuire à l'exercice de la propriété des autres. Nous voyons ici naître la nécessité des lois de police, c'est-à-dire des règles auxquelles doivent être assujettis les hommes dont les habitations, les propriétés se mêlent et se touchent, pour que la libre jouissance de leurs droits ne nuise ni aux droits, ni à la sûreté, ni à la santé, ni au bien-être de leurs voisins. Toute distinction héréditaire, si elle a quelque fait civil, si elle donne quelque droit, toute prérogative personnelle, si elle n'est pas la suite nécessaire de l'exercice d'une fonction publique, est une atteinte aux droits naturels des autres hommes, un pas fait contre le but primitif de la société et par conséquent une véritable injustice. C'est ainsi qu'en ne s'écartant jamais de l'équité, en se conformant à l'objet de la société, on parviendrait à une législation simple, déduite tout entière des principes de la raison universelle, et à détruire cette complication des lois qui n'est pas un des moindres fléaux de l'humanité. Le droit qu'a la société de punir les coupables doit être regardé comme une condition des avantages que la société leur a procurés. Sans cela, il se bornerait, comme celui de la guerre, à ce qui est strictement nécessaire pour ôter à l'ennemi les moyens de nuire. Les peines ne sont légitimes qu'autant qu'elles n'excéderont pas ce qui paraîtra suffisant pour détourner du crime, dans le cas où il n'est commis que par des motifs communs à la plupart des individus. Et elles doivent, autant qu'il est possible, punir dans les mêmes passions qui les font commettre. Enfin, elles doivent être proportionnées au crime, c'est-à-dire diminuer et croître en même temps que l'importance du tort fait à l'individu qui en a été la victime ou l'intérêt qu'a la société de les réprimer. Mais il ne faut pas perdre de vue que la certitude de la punition fait plus d'impression sur celui qui est tenté de commettre des crimes et donne un exemple plus propre à les prévenir que la sévérité des lois et l'atrocité des supplices. La forme des jugements doit être telle que tout homme de sang-froid et doué de raison puisse dire « Je consens à me soumettre à une législation où l'on a pris toutes les précautions possibles pour me mettre à l'abri du crime d'un autre. Qui, si je suis accusé injustement, ne m'expose à aucun danger sensible, à aucune gêne, à aucune privation inutile. Qui, enfin, si je suis coupable, ne me fait éprouver qu'un traitement dont je sens aujourd'hui la justice. Qu'ainsi, l'accusé soit traité avec la même humanité, les mêmes égards qu'on lui devrait si son innocence était prouvée. Qu'il ne soit privé de la liberté que dans le cas où le crime dont on l'accuse serait puni d'une peine plus grave que l'expatriation. Qu'alors même, s'il n'est que soupçonné, on se contente de le citer, de l'obliger à une résidence fixe et de le veiller, en sorte qu'il soit arrêté seulement dans le cas où il chercherait à s'échapper. Qu'autrement, il ne soit condamné à la prison qu'à l'instant où des preuves apportées contre lui seront suffisantes pour le déclarer coupable, si dans la suite de l'instruction, il ne parvenait à les détruire. Que pour enlever au crime l'espérance d'échapper à la poursuite des lois, pour mettre les citoyens à l'abri de la vengeance, un accusateur public soit seul chargé de poursuivre les crimes, mais que la loi accorde à l'accusé pauvre et privé d'appui le secours d'un défenseur public, sans lui ôter cependant le droit de se choisir d'autres conseils. Que le témoin qui a fait un faux témoignage ne soit exposé à aucune peine s'il se rétracte avant l'exécution du jugement. Que, durant toute l'instruction, l'accusé soit admis à donner des preuves de son innocence. Que l'instruction soit absolument publique et que les procédures soient imprimées aux dépens de l'État à une époque fixée avant le jugement. Qu'il soit établi par la loi quelles preuves sont nécessaires pour condamner, de peur que, dans une circonstance particulière, la raison des juges ne soit la dupe des apparences. Mais que ces mêmes preuves ne soient pas regardées comme suffisantes si elles ne le parussent pas à la raison des juges, afin que l'innocent ne soit pas la victime ou du hasard qui aurait rassemblé ses preuves contre lui, ou des erreurs que le législateur a pu commettre en regardant ses preuves, comme devant toujours produire une conviction complète. Que la loi détermine ce qui est véritablement un crime, qu'elle indique d'une manière précise et chaque espèce de crime et la peine qui doit y être attachée, sans qu'il y ait jamais rien à prononcer dans le tribunal, ni sur la qualification des actions, ni sur l'étendue de la peine, mais seulement sur le fait allégué. Que le tribunal qui juge soit formé d'hommes éclairés, choisis dans les classes qui ne partagent pas les préjugés populaires, afin que ni la nature du crime, ni l'impression qu'il produit sur les esprits ne les expose pas à condamner un innocent. Que le tribunal ne soit chargé que de cette fonction seule, qu'il ne soit pas formé de membres perpétuels, afin que les intérêts de leur compagnie ou l'esprit-corps ne puissent les égarer dans leur jugement. L'intérêt qu'ont tous les individus à ce qu'aucun crime ne soit impuni rend ces deux conditions nécessaires. Et il faut éviter également ou l'ignorance et les préjugés de jurés appelés au hasard à ces fonctions importantes, ou l'indifférence et l'esprit de routine de juges qui en feraient un métier. Que le tribunal soit assez nombreux pour qu'un nombre suffisant de récusations non motivées mette l'accusé à l'abri des influences secrètes, et qu'en même temps, les membres du tribunal soient choisis avec assez de soin pour que ces récusateurs ne puissent donner à aucun coupable l'espérance de l'impunité. Qu'on exige pour condamner une très grande pluralité et qu'on renvoie l'accusé si cette pluralité est moindre, sans obliger les juges à changer d'avis, puisque leur décision doit être inspirée par la vérité seule. Que, si malgré toutes ces précautions, il existe encore quelques doutes, ce soit toujours en faveur de l'accusé qu'il s'interprète. Et que, pour les peines les plus graves, et surtout pour celles de mort, si jamais elle peut être juste, l'exécution n'ait lieu qu'après le consentement du magistrat suprême, afin de laisser un dernier recours à l'innocence opprimée. Maintenir la libre jouissance des droits naturels des hommes contre la fraude et contre la violence. Soumettre à des formalités légales les conventions naturellement légitimes qu'ils peuvent y former entre eux. Établir des formes régulières d'acquérir, de transmettre, de recevoir la propriété. Assujettir à des règles communes celles des actions des hommes que dans l'état social le maintien des droits de chacun exige qu'on s'y soumette, c'est là que finissent les droits de la société sur les individus. le reste des lois, ne peut avoir pour objet que de régler la manière dont la puissance publique doit exercer ses fonctions. La religion ne doit pas plus être l'objet des lois que la manière de s'habiller ou de se nourrir.